Pour tous les amoureux du jazz, Marie-France Guimard-Roche a le très grand plaisir de vous présenter Jazz Rétro. Parmi les pépites de la collection de jazz et blues, il y a finalement peu de femmes, qu'elles soient chanteuses ou musiciennes. Memphis Minnie représente le blues au féminin dans le Chicago d'avant-guerre. Elle est universellement reconnue comme l'une des artistes majeures du blues d'avant-guerre. Des personnalités musicales aussi diverses que Muddy Waters, Jimmy Rogers et Chuck Berry se sont réclamées de son influence. Le ton enlevé, presque enjoué de cet enregistrement de 1941, est symbolique de l'ambiguïté des paroles de Minnie. Lorsque la chanteuse demande à son amant de ne pas l'oublier, il faut l'entendre davantage comme une menace que comme un conseil. « Quand tu vas bien pour toi, tu ne penses pas vraiment à moi. Mais il y a 2 ans, n'oublie pas que c'est moi qui ai payé ta caution pour te sortir du trou. » Une façon comme une autre de rappeler à un compagnon un peu trop volage que sa femme lui est plus utile qu'il ne l'imagine. « You need a friend. » Le critique et historien Mike Leadbeater publie en décembre 1970 dans son magazine Blues Unlimited un texte qui donne une vague idée du dénuement dans lequel se trouvait 3 ans avant sa disparition l'une des plus importantes figures du blues d'avant-guerre. L'hospice Jail se trouve dans une rue calme du quartier noir de Memphis. C'est là qu'est soigné Memphis Minnie. Après 3 crises cardiaques, sa santé est très précaire et elle n'est plus en mesure de suivre une conversation normale. De toute évidence, cela la rend très mal à l'aise et je préfère la laisser en paix. C'est un véritable crève-cœur de voir quelqu'un comme elle dans un tel état sans pouvoir rien faire. Pourtant, comme l'écrivait quelques années plus tôt le Belge Georges Adins, dans les colonnes de Rhythm and Blues Panorama, Memphis Minnie, c'est une femme qui aimait vivre, qui vivait bien, qui ne se souciait de rien. Une femme pour qui le blues était un don naturel qu'elle voulait exploiter à fond, en donnant toujours le meilleur d'elle-même. Sa vie vagabonde n'est certes pas étrangère à la maladie terrible qui l'a clouée au lit depuis 1960. La vie vagabonde à laquelle Adins fait allusion est évoquée dans le répertoire de Mimi, In My Girlish Days, Nothing in Rambling, a commencé très tôt. Née le 3 juin 1897 à Algier, une petite bourgade de Louisiane située face à la Nouvelle-Orléans, Lizzie Douglas a entamé ses pérégrinations 7 ans plus tard en s'installant avec sa famille à Walls dans le Mississippi. Aînée de 13 enfants, Lizzie n'a jamais eu l'intention de travailler dans la ferme qu'exploitait son père. Surnommée Kid, du fait de sa vivacité, elle a d'emblée montré plus d'empressement pour la musique que pour l'arrachage des mauvaises herbes dans les champs de coton. Kid, qui sera connue plus tard pour son caractère rebelle et autoritaire, semble avoir mené la vie dure à son père jusqu'à ce qu'il consente enfin à lui acheter une guitare pour le Noël 1905. Me and My Chauffeur Blues. Cette composition de Minnie reste son plus grand succès. Construit sur un schéma analogue au Good Morning Little Schoolgirl de Sonny Boy Williamson, Me and My Chauffeur Blues a donné naissance peu après sa parution en 1941 à une réponse de Lightnin' Hopkins, notre prochaine invitée dans Jazz Retro, intitulée Automobile. Le chauffeur dont Minnie chante les mérites est bien évidemment son amant, à qui elle déconseille fortement d'emmener en promenade d'autres femmes qu'elle. Il fallait que sa force de persuasion fût grande, quand on sait le sacrifice considérable que représentait un tel cadeau pour une famille rurale, aussi modeste que celle des Douglas. Il ne s'agissait toutefois pas d'un caprice, mais d'une véritable passion pour la toute jeune fille qui profite de tous ses moments de liberté pour maîtriser son instrument. À l'âge de 13 ans, elle se sent suffisamment armée pour faire face à la vie et s'enfuit de chez elle. Memphis, à peu de distance de la ferme familiale, dispose d'un quartier noir extrêmement vivant, dont Beale Street est le centre nerveux. Le terme « vivant » peut paraître impropre au regard du taux de mortalité particulièrement élevé. Aventuriers, ouvriers, dockers de toutes races, de toutes origines se pressent dans les saloons et les tripots de Beale. Tel le Pee Wees, dont la devise annonce clairement la couleur « nous ne fermons jamais avant le premier meurtre ». Plongée dans un tel environnement, Kid Douglas devait s'affirmer pour survivre, si elle voulait éviter de rentrer à la maison. Elle commença par se produire sur les trottoirs de Beale ou dans le petit parc qui portera plus tard le nom de W.C. Handy, perfectionnant son art auprès de guitaristes comme Furry Lewis et notamment Frank Stokes, qui aura sur son style une influence certaine. Vers 1917, entre deux séjours à Walls, où elle a conservé ses attaches, la future Memphis Minnie part en tournée avec The Ringling Brothers Circus. S'il n'est pas exceptionnel d'entendre une femme chanter le blues sur les planches d'un spectacle ambulant, il est beaucoup plus inhabituel qu'elle s'accompagne brillamment à la guitare et surtout qu'elle possède une silhouette et un visage aussi avenants. De cette période, Minnie conservera un goût prononcé pour les robes fendues et moulantes. On sait que Minnie a quitté très tôt la ferme familiale pour s'aventurer sur les routes du Sud. Si c'était la chose courante pour les jeunes garçons noirs, on imagine que telle vie d'errance a été nettement plus difficile pour une adolescente. Avec le recul, elle semble regretter ici cette expérience, en disant avec l'humour cynique qui la caractérise « Vous pouvez toujours essayer de faire fortune à Hollywood. Quant à moi, je me contenterai maintenant de la soupe populaire. Nothing in rambling. »
I raised in Algiers, and everywhere I've been, the people's all said, ain't nothing in rambling, either run around. Well, I believe I'm married, whoo-hoo, Lord, and settle down. I first left home, I stopped in Tennessee, the people's all begging, come and stay with me, 'cause ain't nothing in rambling, either run around. Well, I believe I'll get me a good man, woo-hoo, Lord, and settle down. I walk through the alley with my hand in my coat. The police start to shoot me, thought it's something I've stole. You know ain't nothing in rambling, either run around. Well, I believe I'm married, woo-hoo, Lord, and settle down. If he was on the highway, is walking in crying. Some is starving, some is dying. You know ain't nothing in rambling, either run around. Well, I believe I'll get a good man, woo-hoo, Lord, and settle down. To Hollywood and try to get on stream, but I'm gonna stay right here and eat these old chatty beans, 'cause ain't nothing in rambling, either run around. Well, I believe I'm married, woo-hoo, Lord, and settle down.
De retour à une vie plus sédentaire, c'est tout naturellement vers Beale Street qu'elle se tourne à nouveau. Au début des années 20, les musiciens de Delta Blues se partagent la vedette avec les Jug Bands. Kid Douglas trouve plus volontiers sa place auprès des premiers, jouant généralement avec son compagnon de l'époque, le guitariste Willie Brown, et un ami de celui-ci, Willie Moore. Le trio anime des bals chaque week-end, à moins qu'il ne soit invité à se produire lors de fêtes organisées par la bourgeoisie blanche de la région de Memphis. Le jug band, c'est simple. Il accompagne une guitare, un banjo, un harmonica. Le jug, c'est une cruche qui sonne à la manière d'un tuba artisanal et fait office de base rythmique. À l'origine, les jug bands étaient de petits ensembles spécialisés dans les chansons populaires. Le Memphis Jug Bands de Will Chead et les Jug Stompers de Gus Cannon furent les plus célèbres. Dans les studios, les classic blues singers comme Mamie Smith et Ma Rainey, que Mimi admire tout particulièrement, laissent progressivement la place aux bluesmen ruraux. Memphis est l'une des plaques tournantes de ce nouveau marché et les talent scouts y sont nombreux. À la fin de la décennie, Kid vient de se mettre en ménage avec le guitariste Joey McCoy lorsqu'elle est sollicitée avec son mari par un agent de la Columbia. Une première séance est organisée à New York au cours de l'été 1929. Leur vie va s'en trouver profondément changée, à commencer par leur identité, puisque McCoy est baptisé Kansas Joey et que Kid devient Memphis Mimi, du fait de sa ressemblance avec la fiancée de Mickey, comme le veut la légende. Mais surtout, le premier disque du duo, Bumblebee, est un succès immédiat. Du fait de leur popularité soudaine, Mimi et Joey sont appelés dès l'année suivante par Vocalion, qui profite de la présence de l'une de ses équipes à Memphis pour rafler la nouvelle vedette sous le nez de la Columbia. En dépit de courtes périodes chez OK, Decca et Bluebird, Mimi restera fidèle à Vocalion tout au long des années 30. C'est d'ailleurs grâce à cette marque que Mimi se rend pour la première fois à Chicago, au printemps 1930, en compagnie de Kansas Joey. Le couple y découvre une scène plus vivante encore que celle de Memphis, et il ne met pas longtemps à se faire connaître des amateurs de blues du South Side. À une époque où la femme du ghetto brillait par sa soumission, Mimi n'hésitait pas à clamer son autonomie en prévenant tout net son mari qu'elle ne lui laissera qu'une ultime chance de s'amender. Et pour que tout soit clair, elle lui précise tout de go qu'elle a déjà trouvé un amant. C'est votre dernière chance. On a écrit beaucoup de choses sur les rivalités qui opposaient alors les musiciens de Chicago. Une certaine concurrence a dû exister dans ce milieu très fermé. On en voudra pour preuve le concours qui a opposé Memphis Mimi à Big Bill Bronzy en 1933. Malgré cela, il semblait régner entre ces artistes issus d'un même milieu un réel esprit de solidarité et de respect mutuel, qui les amenait régulièrement à collaborer sur scène comme sur disque. La virtuosité de Memphis Minnie en particulier impressionna la plupart de ses confrères, comme Big Bill Bronzy, ou le duo formé par Tom Parred et Georgia Tom Dorsey, avec lesquels elle grava de très belles faces en 1932. L'ampleur de la production discographique de Minnie apporte la preuve de sa popularité. Jusqu'en 1941, plus d'une centaine de 78 tours voient le jour sous son nom. À partir de 1934, à la suite de sa séparation d'avec Kansas Joe et McCoy, elle entame une carrière en solo. Dans cette chanson, Minnie prend encore une fois la défense des femmes en les incitant à se débarrasser des bons à rien qui les exploitent. Ils parlent, ils se vantent, mais il faut les mettre dehors. You got to get out of here.
Behind the bars, run your mouth, throw the fattening fire. You've been talking, yes, bragging, dear. Now what you bet? Well, you got to get out of here. Blown all I give you, lost my place. You're hanging around here now. What a pitiful face. You've been talking, yes, bragging, dear. Now what you bet, well, you got to get out of here. Yes, you got to go somewhere. Can't stay here long. When I was young, I would fall for your jive. You know good means that made me wise. You've been talking, yes, bragging, dear. Now what you bet, well, you got to get out of here. Wipe your mouth, grab your suitcase and wipe your big feet out. You've been talking, yes, bragging, dear. Now what you bet, well, you got to get out of here. Let's go.
Et bientôt, elle se retrouve en compagnie d'autres bluesmen d'importance, parmi lesquels le pianiste Black Bob ou encore le roi de la guitare hawaïenne, Casey Bill Weldon. La séance du 3 février 1939 fait apparaître pour la première fois le nom de Little Son Joey, de son vrai nom Ernest Lawlars. Cet habile guitariste vit depuis peu avec Minnie et il partagera son existence jusqu'à sa disparition en 1961. Comme elle l'avait fait avec son premier mari, Minnie trouve avec Little Son Joey un parfait équilibre musical. Ils se produisent la plupart du temps en duo dans les plus grands clubs de Chicago, le 708 de l'AISA ou encore le 230 Club. Parallèlement, les époux Lawlars réalisent de superbes enregistrements pour le compte de la Columbia, dont le célèbre Me and My Chauffeur. Les restrictions dues à la guerre et à la grève imposées par le syndicat des musiciens viennent mettre un terme provisoire à sa carrière. Mais la popularité de Minnie la rappelle sur scène. Au lendemain de la victoire, on la trouve à l'Indiana Theatre de Chicago, ainsi qu'à Memphis, où elle triomphe au Palace. Can't afford to lose my man. Ce titre fut un honorable succès commercial pour Minnie lors de sa parution en 1941. Il allait d'ailleurs faire l'objet d'une reprise 20 ans plus tard sur un 45 tours, Dome 6 James Williamson, qui utilisait un autre hit de Minnie, Set a Date, en face B.
I want to go out, cheat a little bit, but I'm scared my man may quit, and I can't afford to do it. No, I can't do it. I can't afford to do it, can't afford to lose my man. He scuffles every night, works hard every day, then I take his money and throw it all away. No, I can't afford to do it. No, I can't afford to do it. I can't afford to do it. I can't afford to lose my man. I got a good friend from Alabama trying to get my business all in a jam, and I can't afford to do it. No, I can't do it. Well, I can't afford to do it. I can't afford to lose this man. Play it, son Joe. Man, I bust you in your nose. I can't afford to do it. No, I can't afford to do it. I can't afford to do it. I can't afford to lose my man.
Avec Memphis Minnie et In My Girlish Days, Marie-France Guimard-Roche vous dit au revoir et à bientôt pour un nouveau numéro de Jazz Rétro, enregistré et réalisé pour vous par Pierre Écart dans les studios du Rocas de Radio Grand Ciel.
My mama cried, Papa did too. Oh, daughter, look what a shame on you. I didn't know no better. Oh, boy, and my girl is dead. I hit the highway, caught me a truck, 1917, when it was tough. I didn't know no better. Oh boy, and my gut is dead. My girl is with.